Pauline Pucciano. Le Septentrion. L'assassinat avait porté l'Olympe au plus haut degré de la tension. On en sentait presque les effets dans l'atmosphère, dont le caractère étouffant avait pris en ce matin d'exception une tournure insoutenable. C'était peut-être la conscience vague, au fond de chacun, que les portes étaient sur le point de s'ouvrir et allaient aussi inexorablement se refermer sans qu'aucun d'eux pût rien faire. Chaque mort et chaque intronisation apportait avec le souffle de l'extérieur une pesanteur nouvelle, comme si un nouveau tour d'écrou leur était donné à tous, comme si leur équipage désespéré sombrait encore un peu plus bas en enfer. Drax, réveillé aux premières heures par sa vision, était descendu aussitôt dans la salle centrale. Ses jambes le faisaient sourdement souffrir, et sa faiblesse congénitale semblait avoir gagné encore en longueur. Il savait que son mal subissait des aggravations irréparables, mais rien ne lui était, au fond, plus indifférent. La longue habitude de la maladie, celle des transes, et les structures particulières de sa culture l'avaient plongé très tôt dans un état de conscience différent, et il ne quittait qu'exceptionnellement le détachement dont il faisait preuve à l'égard de tout. Ce matin pourtant, son détachement se teintait de lassitude, et il attendait du jour à venir une longue succession d'efforts à faire sur lui-même. La salle où il se trouvait, que les souverains appelaient indifféremment salle du conseil ou salle centrale, était l'un des trois ou quatre lieux où leur existence était contenue. Drax la connaissait par cœur, mais aujourd'hui cette familiarité lui échappait et il en contemplait les détails avec le même sentiment d'étrangeté que la première fois où il y avait pénétré. Ce qui frappait d'abord était sans doute son style, purement artificiel, qui résultait du consensus entre les diverses puissances. Il ne fallait pas que les parties neutres fussent marquées par une civilisation particulière. Aussi était-on remonté jusqu'à une antiquité hypothétique pour puiser l'inspiration générale du lieu. Le plafond incurvé, relativement bas, était soutenu par de fines colonnes de pierre brune et entièrement recouvert d'une mosaïque complexe dans les mêmes tons ocres et rouges. La grande table ronde fixée au centre, qui rappelait malgré elle tous les mythes de fraternité, arborait la marqueterie luxueuse d'un damier de bois clair et d'ébène. Des statues, enfin, issues de chacune des 10 cultures, occupaient silencieusement les recoins. Drax détestait plus que tout, lorsqu'il était dans cette salle, porter les yeux sur le gracieux dragon oriental qui semblait, plus que perdu, dépossédé de son identité au milieu de cet absurde décor. Lorsque Nebelwyr entra, Drax se tourna pour le saluer. Les deux hommes paraissaient démesurément petits et dénués dans le large espace qui les entourait, et la retenue de leurs gestes semblait destinée à ne pas érafler le silence. Nebelwyr était beaucoup plus grand que Drax, mais sa haute stature, encore accentuée par le manteau sombre dont on le voyait toujours couvert, ne parvenait pas à s'imposer de manière humaine. Il rendit son salut au prince double par un signe de tête à la fois raide et gracieux. Drax ne lui portait pas d'affection particulière, mais il savait apprécier son calme imperturbable et la distance qu'il maintenait toujours dans les relations personnelles. Il n'y avait jamais d'éclat à redouter de sa part, et Drax lui en savait gré. « Vous êtes plus matinal que d'ordinaire, » dit-il d'une voix où affleurait l'effort que lui coûtait d'émettre un son. « C'est que le matin n'est pas ordinaire, comme vous le savez sans doute. » Le prince double hocha la tête. « Qui est celui qui part ?» Nebelwyr sourit légèrement en observant le visage exténué et pourtant d'une remarquable clarté de son interlocuteur. Drax, peut-être à cause de la quasi-transparence de ses yeux, offrait toujours un visage absolument nu, que ne venait troubler aucune charge expressive. Il s'installait souvent dans des positions bizarres, probablement antalgiques, qui lui donnaient l'air d'un animal chimérique pris dans une sorte de piège invisible. Il décourageait pourtant la pitié, par la pureté de sa parole et par celle de son regard. Nebelwyr ne s'était jamais vraiment accoutumé au fonctionnement irrationnel du prince double, ni à son langage métaphorique. Il s'étonnait toujours autant de ce que son don lui permettait de savoir que de ce qu'il lui laissait ignorer. Ce matin, les jambes curieusement emmêlées dans l'accoudoir de son fauteuil, il savait que l'un d'entre eux était mort. « C'est Bartok, » dit sobrement Nebelwyr. Je regrette parfois que l'Orient ne soit pas assez considérable pour qu'il décide de me supprimer, dit Drax avec un léger sourire. Nebelwyr eut un petit rire calme. Est-ce là tout ce que vous pensez de cet assassinat ? Drax leva la tête. Ses yeux très clairs, comme toujours, étaient aussi limpides que ceux d'un jeune enfant. Je ne sais ce que je pense d'un assassinat dont je n'aime ni la victime ni les assassins. Vous pourriez penser quelque chose de ses conséquences politiques ? Drax retomba dans sa torpeur. « Votre politique ne m'intéresse pas. Tous les efforts de l'Orient consistent à y échapper. » Nebelwyr sourit, et souriait encore lorsque Rem et Drial firent leur entrée. La dissension entre eux n'aurait pas été plus visible si elle avait été matérielle. Rem n'était pas homme à entrer sans raison en fureur, mais l'assassinat par ses propres alliés de l'ambassadeur de la nation ennemie, perpétré à son insu, semblait constituer une raison suffisante. Il était vêtu d'un uniforme militaire si rigide qu'il paraissait sculpté et qu'il n'arborait que dans les occasions les plus officielles. Nebelwyr se souvenait qu'il le portait le jour de sa propre intronisation. Drial, quant à lui, avec son sourire humide et ses yeux indéchiffrables, avait l'air reposé de ceux qui viennent de vivre une grande jouissance et on ressasse le souvenir sans prêter attention au moment présent. Ses cheveux noirs, qu'il portait assez longs, étaient emmêlés et venaient sur son visage. Il ne les chassait pas, et Nebelwyr songea qu'il devait être dans d'une de ses humeurs agressives et sensuelles. Ils s'assirent côte à côte à la grande table ronde. Drax, les yeux clos, semblait s'être endormi dans son fauteuil. « Il serait peut-être temps de sonner l'alarme, » dit Rem d'une voix sèche. « Le nouvel ambassadeur ne va plus tarder à présent. » Drial acquiesça. « Pauvre nouvel ambassadeur, » dit-il d'un air contrit. « Votre désinvolture commence à devenir exaspérante, » trancha Rem. « Vous n'êtes pas loin d'avoir perdu la raison à ce qu'il semble. » Drial soupira. « Mon cher prince d'Occident, ce n'est pas à moi qu'il sied de reprocher certaines décisions que vous semblez trouver fâcheuses. Vous savez bien que c'est le hibou qui décide de tout. Moi, je ne suis que sa brute, dévouée. Je n'ai fait en somme que lui prêter main forte. » « Votre tandem est exécrable, » s'emporta Rem. « Mais je crois me souvenir que vous en faites partie, non ?» Rem ne répondit pas, et Nebelwyr attendit quelques instants avant de rompre le silence. La parfaite adéquation esthétique entre l'uniforme du prince d'Occident et sa colère froide avait quelque chose d'envoûtant. « À quelle heure avez-vous exécuté l'ambassadeur ?» demanda-t-il à Drial négligemment. Celui-ci fit une moue voluptueuse. « Vers 1 heure du matin. »« Je vais me charger d'alerter les autres, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, » dit Nebelwyr en se levant. « Faites, mon cher, faites, » répondit Drial. « Si vous croisez Yorick, » ajouta Rem, « dites-lui que j'attends ici ses explications. » Drial éclata d'un rire artificiel, dont Nebelwyr attendit patiemment la fin avant de répondre. « Yorick ne se montrera pas avant l'intronisation, soyez-en sûr. » Il jeta un regard sur la silhouette immobile du prince double, qui ouvrit les yeux à cet instant précis, puis sortit. 2 heures plus tard, tous les membres de l'Olympe, à l'exception de Yorick, étaient réunis. Solon, chancelier des terres boréales, qui venait de prendre sa dose de morphine, paraissait regarder à l'intérieur de lui-même. Sa main, mollement, jetait de loin en loin sur la table une paire de vieux dés de bois, et il gloussait parfois mystérieusement au vu du chiffre qui tombait. Aefex, grand consul d'Austrie, l'air plus mortifié et plus sombre encore qu'à l'accoutumée, demeurait silencieux, tandis qu'Atalion, archityran du Méridien, harcelait Nebelwyr de questions concernant le nouvel ambassadeur, questions auxquelles le maître de l'archipel ne répondait pas, ou le plus évasivement possible, dans l'attitude d'un penseur dérangé par un insecte. Rem avait fini par contenir sa fureur, qui ne transparaissait plus que dans un geste nerveux de sa main, et adressait de temps en temps à Drial des regards où la perplexité prenait le pas sur l'agacement. Seul, Lyoltide, commandeur d'Océanie, se tenait debout, aux côtés du prince double, tourné vers le couloir, dans une pose anxieuse et tourmentée. Leur attente fut lente, longue et presque douloureuse. L'air paraissait s'épaissir à chaque minute autour d'eux, et un sentiment apparenté à la peur, un sentiment irrationnel qu'aucun d'eux pourtant ne dominait vraiment, les unissait malgré eux dans l'imminence de l'événement. Le martèlement léger de pas dans le couloir leur fit lever la tête. et ils restèrent ainsi quelques secondes dans un temps dilaté, aux aguets. Lorsqu'elle entra, plusieurs d'entre eux eurent un tressaillement involontaire. Au-dessus de la robe de velours noir brodée d'or, dont l'élégance nuptiale et le faste funèbre avaient déjà quelque chose d'essentiellement féminin, se dressait le cou fragile et blanc d'une jeune fille. Elle portait la tête très haute, comme une caricature de dignité qui pourtant ne prêtait pas à rire. Son visage, animé d'un éclat particulier, dont les yeux semblaient emplis de foudre, s'achevait en un chignon immense et ouvragé, dont le poids sans doute écrasant rayonnait comme une couronne. Nébelouir se leva presque aussitôt, fit une esquisse de révérence, puis articula « Je vous présente Lioa, ambassadrice du Septentrion. » Lioa le regarda, et il vit que si elle ne s'attendait pas à ce qu'il sût qui elle était, elle en prenait cependant acte avec le plus grand sang-froid. « Vous devez être le maître de l'archipel pour être aussi bien renseigné, » remarqua-t-elle. Il s'inclina à nouveau. « Pour vous servir. » Lioltide, qui se tenait debout auprès d'elle, lui tendit la main. « Lioltide, commandeur d'Océanie, » dit-il. Elle eut à peine une hésitation avant de prendre la main offerte, puis son regard balaya l'assemblée. « Il manque l'ancien, » dit-elle. « A-t-il jugé que l'événement ne méritait pas qu'il se déplace, ou est-il enfin mort ?» Dryal eut un rire méchant. « Rassure-toi, ma belle, ton vieil ennemi pourrait avoir une espérance de vie supérieure à la tienne. » Elle le fixa froidement un assez long moment. « Si c'est une menace, dit-elle, elle est un peu redondante. L'assassinat de mon prédécesseur constitue en lui-même une mise en garde plus qu'explicite. » Dryal ne répondit pas tout de suite, comme s'il était en train de se formuler un jugement, puis dit sur un ton désinvolte. « Dryal, seigneur de Tellurie, je ne vous serre pas la main, mes mains sont un peu sales. J'ai l'art des Bardocs de coups de couteau ce matin même vers 1 heure. »« Enchanté, dit-elle sèchement. « Je suis sûre que vous avez un charmant sourire, mais vous faites bien de ne pas le montrer, » ajouta-t-il. « Ceux d'entre nous qui ne sont pas homosexuels s'adonnent depuis des années au plaisir solitaire de la castration chimique. » « Je tâcherai de m'en souvenir, » dit-elle. Rem tout sauta avant de se présenter. « Rem, prince d'Occident, je vous souhaite la bienvenue. « Aefex, grand consul d'Austrie, » dit ce dernier lorsqu'elle détourna son regard vers lui. « Atalion, archityran du Méridien. » Drax, prince double d'Orient, et voici Solan, chancelier des terres boréales. Solan leva les yeux hagards. Une femme, murmura-t-il. Drax fit à Lioa un sourire d'excuse. Elle resta une seconde fascinée par ce sourire, puis elle s'installa à l'une des deux places vides qui restaient autour de la table. Tandis que chacun se rasseyait, un froissement de robe se fit entendre à la porte. Lioa, qui tournait le dos à l'entrée, ne se retourna pas. « Le jeune ambassadeur est-il prêt à perdre la guerre ?» susurra la voix éraillée de Yorick. « Je discuterai de cette question lorsque vous daignerez vous asseoir, » dit Lioa. « Dryal, » continua l'ancien, « est-ce bien la voix d'une jeune fille ?»« Oui, » répondit Dryal, « la voix d'une jeune vestale envoyée pour le sacrifice final du Septentrion. » Le vieillard gloussa, puis, à tâtons, prit place à côté des autres. Il y eut un silence relativement long, pendant lequel Lioa, observée, garda les yeux fixés sur la table. Elle releva enfin la tête. « Je voudrais poser une question aux représentants de l'archipel et de l'Orient, » dit-elle d'une voix plus calme. « Allez-y, s'il ne vous importe pas que cet entretien soit public, » dit Nébelouir. « Seriez-vous prêt, à un prix quelconque, à fournir sur le champ un appui militaire au Septentrion ?»« Il n'en est pas question, » répondit simplement Nébelouir. « L'Orient est une puissance mineure, » dit Drax, « qui ne peut se permettre d'interférer dans les conflits majeurs. Ma réponse est non. » Lioa hocha la tête en signe d'acquiescement, et il parut évident à tous que sa question avait été purement formelle. Elle se tourna alors vers le prince d'Occident. « Il est tout à fait indubitable que nos armées ne sont pas de taille à endiguer les vôtres, et je n'espère aucun salut par les armes. Cependant, il n'est pas moins certain que bien peu de puissance aurait intérêt à la disparition pure et simple du Septentrion. Et je tiens votre guerre pour une guerre d'intimidation, destinée à obtenir quelque chose de précis ou à affaiblir notre économie, à moins qu'il ne s'agisse du pur caprice d'un ou de plusieurs esprits à la dérive. Quoi qu'il en soit, la menace de destruction que vous faites peser sur moi ne m'inquiète pas. À 17 heures précises, si les bombardements n'ont pas cessé et si vos armées n'ont pas amorcé un mouvement de repli, je commande l'autodestruction de tous les gisements septentrionaux d'aérocarbures. Soyez sûr qu'il n'en restera pas un centimètre cube et songez au formidable monopole que j'offrirai alors à l'Austrie. Vous pouvez considérer cela comme un ultimatum et vous pouvez considérer également que les termes en sont définitifs. La séance est-elle levée, votre honneur ? Demanda Drial d'un air moqueur. Lioa le regarda d'un air presque attristé, tout en se levant. « Et vous, seigneur, faut-il vous applaudir à chaque phrase que vous prononcez ?» Il ne rétorqua rien et se contenta de lui sourire insolemment tandis qu'elle saluait l'assistance et se disposait à sortir. Lorsqu'elle les eut quittés, la tension s'apaisa quelque peu. Des murmures anarchiques se mirent à emplir la salle, et ils eurent un certain mal à se séparer, comme des spectateurs qui s'attardent après un tombé de rideau. L'intronisation qu'ils avaient guettée pendant des heures anxieuses venait finalement de rejoindre le lot innombrable des événements passés.